Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Fabien Lombard, bonjour.
Bonjour.
Président du syndicat de la Clairette de Die.
Oui, absolument.
À Vercheny, ce siège.
Depuis 3 ans, voilà, je préside au syndicat de la Clairette, qui représente l'ensemble des vignerons de la vallée sur les 31 communes de l'appellation. Il y a à peu près donc 300 viticulteurs qui adhèrent à notre syndicat de défense de l'appellation Clairette de Die, mais également, on les cite moins, de Crémant de Die, de Coteau de Die et de Châtillon-d'Ivoire, puisque l'ensemble des AOC de la vallée donc sont représentés par ce syndicat.
4 AOC et une 5e arrive.
Oui, bientôt. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle appellation, puisqu'on s'appellera toujours Clairette de Die. C'est plutôt une nouvelle couleur dans l'appellation Clairette de Die, méthode ancestrale, donc tradition, avec l'apparition donc du rosé.
Une Clairette rosée ou un rosé classique?
Non, une Clairette de Die rosée. Donc, on est bien sur un vin effervescent, avec toutes les caractéristiques d'une Clairette de Die, donc avec le cépage muscat, bien sûr, qui sera toujours majoritaire à plus de 75% dans l'assemblage final. Donc, le muscat. Et puis après, donc, on aura une couleur rosée qui sera amenée essentiellement par deux cépages, par le gamay noir que l'on retrouve sur Châtillon-d'Ivoire, et puis donc le muscat rouge, qui est un mutant naturel du muscat blanc et que l'on retrouve là aussi un peu partout dans le vignoble et qui commence à être planté dans le vignoble.
Oui, à ne pas confondre avec le cépage Clairette rosé, puisque lui, il existe aussi.
Le cépage Clairette rosé existe, effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas représenté dans nos cahiers des charges. Donc là, dans la nouvelle mouture que l'on attend pour dans quelques mois, une place sera faite également pour la Clairette de Die, pour le cépage Clairette rosé. Mais avec ce cépage, on a des difficultés d'obtenir un vin coloré. On est plutôt sur des gris. Et donc, même s'il rentrera dans l'encépagement, ce n'est pas avec, malheureusement, ce cépage qu'on obtiendra la couleur rose de la Clairette.
Ah ouais, il n'est pas assez... C'est
une peau trop peu teintée pour avoir la couleur rose après une macération.
Ouais. Alors, ça fait super joli dans la vigne quand on tombe sur un plan comme ça, mais ça n'apporte rien à la couleur.
Non, mais par contre, on va pouvoir régulariser toutes les vignes qui vont être plantées. Donc, ce cépage rentrera dans notre encépagement.
Oui, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était pas autorisé.
Disons qu'il y avait une tolérance, voilà. On ne regardait pas ce cépage puisque c'était très proche de la Clairette blanche, mais maintenant ce sera donc officiel et il pourra rentrer dans l'appellation Clairette de Die sans problème.
Pour parler un petit peu plus du rosé, effectivement, peu de gens parfois le savent, mais il faut avoir des raisins qui ont un tanin naturel, rouge. On va presser ça rapidement et tout de suite enlever les peaux pour pas que ça passe beaucoup plus rouge.
Alors voilà, pour obtenir donc un vin rosé, il faut un peu de macération quand même de la pellicule, là où il y a les anthocyanes, donc la couleur rouge. Cette durée en fait de macération, elle dépend un petit peu en fonction des cépages, du potentiel colorant. Nous, sur les deux cépages, donc, qui sont des cépages dits aromatiques, par rapport à la réglementation, puisqu'on ne peut pas faire une Clairette de Die avec tous les cépages, c'est vraiment qu'une catégorie de cépages, muscat, donc rouge et gamay, sont des cépages qui ne sont pas très très colorés, donc la macération doit quand même se poursuivre un petit peu pour extraire la couleur.
Ce gamay donc qui est présent dans les appellations de vin tranquille, Châtillon-d'Ivoire ou Coteau de Die.
Alors le gamay, il n'est pas dans le Coteau de Die, c'est qu'un blanc le Coteau de Die, donc c'est que le cépage Clairette. C'est vraiment que dans Châtillon-d'Ivoire rouge et rosé, donc sur la commune de Châtillon principalement.
C'est donc plutôt un cépage dont on a l'habitude de faire un bon vin rouge avec. Qu'est-ce que ça va apporter en plus au niveau goût à la Clairette rosée?
Le gamay donc apporte plutôt des notes de framboise et de petits fruits rouges en fait à la Clairette. Au-delà donc de l'aspect muscat et plus fruits exotiques, litchi, mangue qu'on peut avoir dans la Clairette de Die. Et le cépage muscat rouge, lui, apporte principalement des notes de framboise dans notre assemblage.
Donc il va y avoir quand même un petit côté fruits rouges.
Oui, c'est un petit peu l'idée, c'est de garder la base, le socle en fait, Clairette de Die, donc le côté très aromatique, avec toujours donc des sucres résiduels, et en amenant un peu plus de complexité, un petit peu plus de vinosité dans le vin, avec donc la couleur rosée.
Alors, puisqu'on a l'occasion de t'avoir, Fabien Lombard, donc président du syndicat de la Clairette de Die, comment arrive sur la table, sur la vôtre en tout cas, une réflexion de créer un nouveau produit et donc de le faire entrer dans l'AOC dans le cadre par exemple de cette Clairette rosée?
Alors, les démarches ont été commencées donc, avant mon arrivée à la présidence. Hein, c'était donc sous la présidence de Bernard Pélissier que les premiers travaux ont été réalisés sur le millésime 2010, puis 2011, 2012 et 2013, donc sur d'abord le crémant d'Audy, puisque la réflexion elle est partie du constat que dans tous les créments de France, nous étions les seuls à ne pas avoir la couleur rosée et que ça paraissait donc assez anormal alors qu'on avait des cépages rouges dans notre vallée. Donc c'est pour ça qu'on a commencé notre expérimentation sur le crémant d'Audy. Et ensuite, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une possibilité d'aller sur la clairette d'Audy puisqu'on avait ce muscat rouge et ce gamay. Et donc, on a expérimenté dès le millésime 2011 sur ces appellations. Et puis après, petit à petit, c'est un long travail avec l'INAO, donc l'Institut National des Appellations d'Origine et de la Qualité, pour amener petit à petit notre projet au bout. Donc là, actuellement, on est dans la phase finale. Ce dont on parle, la clairette d'Audy, n'est pas encore officiellement reconnue. On est dans une phase où on est donc à quelques mois de la reconnaissance de l'appellation. C'est ce qu'on appelle une phase d'opposition. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, notre cahier des charges a été validé par le comité national de l'INAO. Donc, c'est remonté toutes les étapes jusqu'au niveau national. Et on attend donc comme un peu une... lorsqu'il y a donc une procédure...
J'allais dire pour un permis de construire.
Comme un permis de construire. Voilà, on a une phase en fait où chacun peut s'exprimer. Et dans quelques semaines, puisque c'est le 13 mai que cette phase se termine, on saura si notre cahier des charges est accepté définitivement.
Qui pourrait s'opposer localement, par exemple?
Je pense que localement, on n'a pas d'opposition, puisque c'est un projet qui est vraiment porté par tout le monde. Après, on peut toujours imaginer que des concurrents d'autres appellations voient d'un mauvais œil qu'une appellation en vin rosé aussi performante que la clairette d'Audy arrive sur les marchés. Voilà. mais nous, on est assez sereins et puis on se dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Le marché du rosé est un marché qui est en croissance. Le marché des vins effervescents est aussi un marché qui est en croissance au niveau mondial. Donc, il n'y a pas de raison particulière de craindre l'arrivée de cette nouvelle couleur sur la clairette d'Audy. Et puis nos vignes ne pourront pas être en croissance indéfiniment, puisque nous sommes quand même limités par le potentiel de production, par les montagnes, par la zone classée. On ne peut pas du jour au lendemain doubler la superficie. C'est quand même une appellation et c'est géré très finement au niveau des quantités produites.
Un des plus gros travaux de ce syndicat de la clairette et des appellations, c'est bien justement de contrôler l'extension de cette appellation, sa limite, donc sa qualité.
Oui, aujourd'hui, c'est 1600 hectares, l'appellation clairette d'Audy. On a potentiellement 3000 hectares de plantables, si on regarde ce qui est facilement plantable sur les 31 communes. Mais chaque année, on a une croissance entre 1 et 1,5%. Donc du coup, on ne va pas doubler instantanément parce que les marchés ne supporteraient pas. Donc on a une croissance raisonnée qui est liée à nos potentiels de vente.
Et pourquoi cet engouement avec le rosé, c'est fun?
Pourquoi il faut se passer du côté du consommateur. Pourquoi le rosé? Peut-être parce que c'est peut-être un vin accessible, que le rouge, des fois, c'est un petit peu compliqué. Le blanc, c'est aussi des fois un peu compliqué d'approche. Le rosé, c'est finalement un vin qui n'est pas sans complexe.
Il va bien pour l'apéro, pour plein de trucs.
Voilà, et alors c'est quand même très français, parce que le marché du rosé, c'est quand même un marché très français. Les Français sont les premiers à consommer du rosé. Alors comme nous, la clairette d'Audy est aussi un marché qui est très lié à la consommation française, puisqu'on a que 15% d'export encore au niveau de la clairette, même si cette part est amenée à progresser, on est encore sur un marché très français. Donc du coup, on se dit qu'une clairette rosée, alors que le marché français est un marché qui consomme du rosé, on a toutes nos chances à ce niveau-là. Et après, c'est le marché des États-Unis, le deuxième marché de rosé au monde, c'est les États-Unis. Donc là aussi, où la clairette est un petit peu présente.
Avec Fabien Lombard, président du syndicat de la clairette d'Audy, on va aborder aussi un petit peu les autres sujets qui jalonnent comme ça le travail du syndicat de la clairette. Cette appellation, donc rosée, qui va arriver très prochainement, on espère, ça va concorder avec les espiègleries. C'est-à-dire que le 13 mai, vous pourrez être vraiment en fête, puisque le 14, 15, 16, c'est le festival des espiègleries. On saura si c'est la fête ou pas.
Voilà, s'il n'y a pas d'opposition, au 13 mai, on fait la fête et on la continue jusqu'à la fin du week-end de l'Ascension.
D'ailleurs, est-ce que quelqu'un aura préparé une clairette rosée pour l'occasion? On pourra goûter ou pas?
Alors non, c'est pas encore fait, puisque ça pourra se mettre en place que pour la récolte 2015 qui arrive, si tout va bien. Parce qu'après, une fois qu'on a, s'il n'y a pas d'opposition, ensuite il faut que le cahier des charges transite par le ministère de l'Agriculture et par tous les ministères et tous les ministres qui doivent signer notre cahier des charges et qui doit être publié au journal officiel. Donc il y a encore une phase derrière de travail administratif. Mais qui devrait arriver juste d'ici à la récolte.
D'accord. Et ce qui permettrait de sortir de l'expérimentation et de commencer la production, par exemple, à partir des récoltes de septembre?
Voilà, on sortirait de l'expérimentation et on arriverait sur un vin commercialisable sous la dénomination Clairette de Die Rosé pour, en gros, le printemps 2016.
Ah, donc quand même. C'est
donc
très
pour
rapide.
Les Espiègleries 2016, voilà, on pourra avoir une Clairette de Die Rosé. Ouais.
Fabien Lombard nous confirme qu'il y aura des Espiègleries en 2016.
C'est pas une confirmation, c'est s'il y en a.
Ah zut, zut. Les autres sujets du syndicat de la Clairette qui nous intéressent aujourd'hui, alors je ne me rappelle plus du nom que tu m'as dit hors antenne, mais il y a une maladie auquel vous êtes directement intéressé. Pas parce qu'elle peut être présente ici, mais parce que c'est devenu un enjeu national peut-être.
Alors oui, c'est la flavescence dorée, donc c'est une maladie à phytoplasme, donc le phytoplasme est encore plus petit qu'un virus, donc c'est vraiment quelque chose qui est invisible à l'œil nu et qui est transmise, cette maladie, par une petite cicadelle qu'on appelle la cicadelle vectrice de la flavescence dorée.
Donc, c'est un petit cicadelle, insecte. C'est un joli papillon translucide vert.
Petit insecte.
Que vous détestez, les papillons.
Jaune avec des petites ailes, ouais. Qui est malheureusement présent chez nous. Un peu partout dans le vignoble, tant qu'il n'y a pas de cèpe atteint par la flavescence dorée, ne pose aucun problème. Mais dès l'instant qu'il y a un cèpe, c'est la cicadelle qui va transmettre de cèpe à cèpe avec un facteur 100. C'est d'où la difficulté pour cette maladie, c'est qu'un cèpe une année, 100 cèpes l'année d'après, et ainsi de suite. Si on ne fait rien, donc très rapidement, c'est toute la parcelle qui est atteinte. Donc c'est une maladie qui n'est pas présente chez nous, bien heureusement, mais qui est présente dans le sud de la Drôme, qui est présente en Beaujolais, en Savoie, dans les Bouches-du-Rhône, enfin un peu partout dans la France. Et donc, pour se prémunir contre cette maladie, il y a plusieurs possibilités, et notamment de traiter les jeunes plants de vigne par l'eau chaude. Donc, juste avant la plantation, on traite dans un bain d'eau chaude les plants de vigne, et cette eau chaude va détruire le phytoplasme qui est présent dans le bois. Et donc, on va planter un plant sain.
Uniquement de l'eau chaude ?
De l'eau chaude, oui, c'est fait dans la vallée
parfait
de la Drôme.
Parfait pour les bio et ceux qui ne le sont pas aussi, finalement.
Ah, c'est un traitement naturel, puisque c'est que de l'eau chaude et c'est fait dans la vallée, dans des entreprises qui ont des bassins d'eau chaude thermorégulés, donc on peut tremper nos plants. Et donc, à partir du moment où on plante un plant sain, on peut imaginer que si tous les plants sont sains et qu'il n'y a pas de cicadelle qui arrive contaminée, bon, le vignoble restera sain. Donc ça, c'est une nouvelle mesure qu'on a voulu intégrer dans notre cahier des charges, pour justement obliger une pratique qui est déjà bien ancrée dans le vignoble, mais dans le cahier des charges, ce sera une obligation de le faire.
Donc, nouveauté pour les personnes qui vont planter maintenant dans l'AOC gérée par le syndicat de la Clairette.
Voilà, toutes les vignes AOC. Plantées sur les quatre appellations devront être, à la fois les remplaçants dans les vignes et à la fois les nouvelles plantations devront être trempées à l'eau chaude.
Donc, c'est un travail qui doit être fait en pépinière ou par l'agriculteur ?
Par les pépiniéristes.
Le syndicat peut imposer à des pépiniéristes un nouveau cahier des charges.
Alors, c'est pas aux pépiniéristes en fait qu'on l'impose, c'est aux vignerons. Dès l'instant qu'ils veulent faire de l'appellation, y a un cahier des charges, des règles. Si on veut faire de l'appellation, il faut respecter les règles. Si on ne respecte pas les règles, on fait autre chose, mais on ne fait pas du vin d'appellation. C'est le principe même de l'AOC en France.
Quand même, ça va demander aux pépiniéristes de s'équiper s'ils veulent suivre.
Ce qu'il y a, c'est que là, on entérine une pratique déjà existante. Le trempage à l'eau chaude est pratiqué par tous les pépiniéristes qui livrent aujourd'hui dans le vignoble. Mais on voudrait vraiment que ça devienne quelque chose de systématique pour éviter qu'il y ait parfois des plants qui arrivent, peut-être d'autres pépiniéristes qui n'ont pas connaissance de cette pratique. Et donc là, ça s'opposera également pour eux.
Ce petit virus est arrivé comme ça d'un coup, ou il est plus présent dans le sud et moins dans le nord parce qu'il est sensible au changement climatique ?
Non,
pourquoi on en parle maintenant ?
On en parle déjà depuis quelques années, hein. c'est pas nouveau, c'est une maladie qui de temps en temps donc, réapparaît. Peut-être parce qu'aujourd'hui aussi, on a moins de traitements insecticides dans les vignes et donc les cicadelles sont beaucoup plus présentes. Et donc, c'est plus facile, dès l'instant qu'on a beaucoup de cicadelles, d'avoir une dissémination de ce phytoplasme.
Et sinon, pour terminer avec cette cicadelle, comment on lutte contre elle ?
La lutte, elle est forcément chimique, mais elle peut être en bio également, mais avec des produits insecticides, neurotoxiques, qui détruisent les cicadelles. Et c'est vrai que nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir l'obligation de traiter, parce qu'à partir du moment où la flavescence dorée est présente dans un vignoble, il y a obligation pour les bio, pour les non-bio, de traiter entre une et trois fois par an en insecticides. Et c'est pour ça que le syndicat veut vraiment prendre les devants. Et obliger ce traitement à l'eau chaude, c'est pour éviter tout traitement insecticide plus tard dans le vignoble. Et donc on espère que cette mesure suffira pour ne jamais avoir recours à ces traitements qui sont quand même nocifs en bio comme en conventionnel.
Et on peut imaginer d'ailleurs que pour un agriculteur en bio, devoir procéder à ce traitement curatif, hein, lui fait perdre la qualité biologique de sa vigne.
Non, puisqu'il y a des traitements donc, autorisés en bio pour lutter contre la cicadelle. Donc ça ne remet pas en cause le label, mais par contre peut-être la philosophie du vigneron, oui.
Allez, on passe à un autre sujet. Merci Fabien. Du syndicat de la Clairette, et quelque chose qui pendant... Oh là, je crois que j'en ai toujours entendu parler et je commence à vieillir, pas tant, mais c'est la question de la machine à vendanger sur les appellations, tantôt interdite, tantôt souhaitée d'être interdite, au contraire parfois plébiscitée. Cette fois, vous avez tranché.
Oui, enfin, pour le moment. En tout cas, la solution qui a été trouvée pour conserver quand même... une mention d'étiquetage qui est importante parce qu'on souhaite mettre et pouvoir continuer à mettre sur nos bouteilles de Clairette de Die la mention vendanger à la main parce que c'est quand même une pratique qui est généralisée encore dans le vignoble. Et donc pour continuer à mettre cette mention vendanger à la main, il fallait que l'on puisse autoriser la récolte mécanique parce qu'il n'est pas possible dès l'instant qu'on interdit la récolte mécanique de marquer vendanger à la main sur les étiquettes. Donc c'est vrai que ça c'est aussi une adaptation du cahier des charges. Et donc, chacun sera libre de vendanger comme il le souhaite.
Je retourne un peu la phrase dans l'autre sens, peut-être pour que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'avant, il était interdit dans l'appellation de vendanger à la machine, puisque c'était de fait noté dans le cahier des charges. Il n'était pas possible d'en faire la promotion.
Absolument. Comme voilà. C'était une mesure qui était pour tout le monde, il n'était pas possible de l'inscrire sur une étiquette, ce qui était une aberration en fait, ouais, puisque finalement ce qui est fait ne peut pas être écrit. Donc du fait de l'autoriser, ça nous permet de ceux qui veulent vendanger à la main, de le revendiquer haut et fort sur leurs étiquettes.
A priori, il n'y a pas de grands propriétaires ou grosses caves du secteur qui se sont dit « allez, nous, on passe tout à la machine ».
Non, et puis le vignoble est ce qu'il est aussi. On a un vignoble qui est quand même pas que récent, qui est de montagne, avec
en coteaux.
Ouais. Donc ce qui fait que la machine sera présente, mais restera sur quelque chose d'assez marginal chez nous.
D'autres choses que tu aimerais faire savoir au Diwa?
Ben, en fait, le syndicat de la Clairette, donc on a parlé beaucoup de techniques, beaucoup de cahiers des charges, réglementation, voilà. Et le syndicat de la Clairette, ce n'est pas que la casquette du gendarme, c'est aussi de la promotion, donc au travers des espiègleries par ailleurs sur la vallée de la Drôme et sur Die.
Une interview à retrouver très prochainement sur Air Diwa.
Hein. Ouais, et c'est aussi pour nous donc de la promotion, de la communication et notamment de l'onotourisme.
L'onotourisme.
Et donc ça, c'est un mot qui devient à la mode. Notre ministre des Affaires étrangères ne parle que de nos tourisme à l'étranger, donc nous on va essayer aussi de le mettre en avant chez nous. C'est pour ça que fin 2014 donc nous avons au niveau du syndicat donc voté en conseil d'administration la possibilité d'aller vers vignobles et découvertes. Donc vous allez en entendre parler petit à petit de ce label.
Ah oui,
c'est un label donc qui est géré par Atout France, donc qui nous permet de fédérer tous les acteurs du tourisme autour du vin. Donc un label qui va être développé sur 2015, qui sera vraiment actif et mise en place sur 2016.
Explication, c'est-à-dire que là aussi, le syndicat de la Clairette va faire une proposition d'aller vers ce label et l'Office du tourisme, par exemple, ou des professionnels de l'hébergement, des campings, vont eux aussi s'inscrire dans ce label?
Absolument. En fait, le porteur de projet, ce sera vraiment le syndicat de la Clairette parce qu'on veut que les vignerons restent au cœur du système avec, donc, bien sûr, les offices du tourisme de Cré, Saillant et de Die. Pour donc nous accompagner dans cette démarche. Et après, c'est d'aller voir tous les opérateurs de camping, les hébergeurs, les restaurateurs, pour leur proposer d'aller avec nous vers ce label. Et donc, c'est d'intégrer le vin à chaque fois dans tous leurs outils. Un exemple simple, on vient dans la région dans un hôtel, et ben l'hôtel met à disposition donc une possibilité de dégustation, a de l'information sur la Clairette, et en échange, nous, dans nos caveaux, on relaie aussi l'information vers ces hôtels. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tous les acteurs, et pour à terme faire de cette vallée une vallée vraiment identifiée comme un vignoble qui respire le vin.
Avec aussi quelques opérations vraiment destinées à ce que le touriste se rende bien compte qu'il est dans une vallée portée par le vin. Par exemple, refaire des ronds-points, faire des routes de vin.
Alors effectivement, nous, on n'a pas de route des vins. Aujourd'hui, on vient dans la vallée de la Drôme, on ne voit pas de route des vins.
Donc, alors que c'est qu'une route qui est au milieu des vignes quand même. Hein.
Voilà, donc on s'est dit assez simplement qu'il fallait qu'on ait une route des vins. Donc là-dessus, on a été accompagné par le conseil général qui est donc en charge des routes départementales et donc qui nous a ouvert vraiment bien les portes et nous a donc encouragé à faire cette route des vins. Donc elle sera effective pour fin mai, début juin. Assez rapide, vous verrez fleurir des panneaux, forcément un petit peu de visuel, autour donc de la route de la Clairette de Die, sur donc les 31 communes de l'appellation. Donc il y aura à peu près 40 panneaux qui vont être posés sur les mâts directionnels ou des mâts nouveaux, pour identifier donc les villages de l'appellation, les caves, et aller vers également les sentiers de randonnée, puisqu'il y a 8 sentiers de randonnée répartis dans 8 villages de l'appellation, où on peut faire des randonnées en famille d'une heure et demie, tranquille, sur les chemins au milieu des vignes. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment route des vins. Et puis les ronds-points, donc, on souhaite, avec le syndicat, donc, aménager 3 ou 4 ronds-points sur la vallée, sur l'axe donc, de la route départementale 93. Donc en partant de Loriol-Livron, avec nos amis du Brézem, donc on réfléchit à quelque chose sur cette base-là. Ensuite, aller sur Cré, Piégro-Laclastre, et finir sur Die, avec le rond-point de l'entrée de Die, où il y a déjà un petit peu de vigne, mais on veut l'accompagner donc avec des sculptures métalliques, comme on peut le retrouver sur les Picodons ou sur le rond-point de Saillant pour la Clairette. Donc des sculptures métalliques autour de nos métiers, de nos caves, de nos bouteilles.
Un art qui sera confié à quelqu'un que vous avez déjà déterminé ou c'est ouvert encore ?
Ah, c'est ouvert encore. S'il y a des artistes qui veulent postuler, il n'y a aucun problème. Nous, on a identifié quelques personnes qui réalisent notamment déjà les sculptures sur cet axe-là. L'idée, c'est de travailler sur le métal avec peut-être un recyclage des vieux outils de vignerons pour essayer donc de donner une deuxième vie à ces outils. Mais s'il y a des propositions, nous sommes bien sûr ouverts au syndicat de la Clairette à Verchenil pour les étudier.
J'ai envie de citer Cyril Copier qui, chaque année, depuis que les Espiègleries sont un festival, a dit, fait des propositions de promenade dans les vignes. Il partage aussi son expérience et son travail finalement. Est-ce que cette route des vins va, par le biais de ces panneaux peut-être, inviter les gens à aller rencontrer des personnalités du secteur qui pourront donc partager aussi leur expérience, parce qu'on parle de nos tourismes, c'est pas uniquement déguster et lire quelques panneaux.
Non, effectivement, c'est pas que ça, mais après, voilà, c'est à chaque entité, chaque cave de proposer des produits touristiques, entre guillemets, hein, pour aller à la rencontre en fait, des visiteurs. Alors sur la ville de Die, c'est vrai que Cyril donc, organise une randonnée dans les vignes pendant le Festival des Espiègleries, le samedi. Après, sur la ville de Die, nous allons mettre en place spécifiquement un sentier autour de l'histoire de la vigne, histoire du vin, histoire de la Clairette, avec le musée de Die. Et donc, il y aura des panneaux qui vont être installés avec des questions pour les enfants, avec un sentier qui passera notamment donc, par une partie des vignes de Cyril. Et il y a un deuxième sentier pédagogique, plutôt autour de la culture de la vigne, qui est sur Verchenil. Donc ça, ce sont des sentiers qui sont voilà, assez ludiques pour les enfants et pour les familles.
En espérant que chaque cave, chaque particulier ou chaque viticulteur s'empare aussi de...
Ça ne pourra réussir que si tout le monde s'en empare. Effectivement, nous, on impulse un petit peu le travail sur le tourisme qui, dans notre vallée, on le sait bien, avec la Clairette, l'agriculture et le tourisme, c'est le poumon en fait, économique de notre vallée. Si on peut arriver à lier les deux, c'est parfait. Donc nous, on donne l'impulsion et après, chacun doit amener sa pierre à cette construction de l'œnotourisme.
Là, c'était pour l'économie de la vallée, mais est-ce que le tourisme apporte réellement un plus à la vente, soyons pragmatiques, de Clairette?
Forcément, hein, on est aussi des entreprises hein, comme producteurs de Clairette.
C'est une part, un bon pourcentage annuel.
Alors la part de vente au caveau, et notamment le caveau qui est sur Die de Jaillan, c'est une part quand même substantielle de ces ventes. Et surtout, c'est une vente qui est assez bien valorisée, puisque les ventes se font donc dans des caveaux où il n'y a pas d'intermédiaire. On est directement du producteur au consommateur, donc sans intermédiaire, ce qui permet donc d'avoir une marge plus conséquente pour le producteur. Et donc d'avoir un accueil plus qualitatif.
Fabien Lombard pour le syndicat de la Clairette de Die et du Diois et du Crémant et de l'AOC Châtillon en Diois et Coteau de Die. Je me suis trompé tout à l'heure qu'il n'y avait qu'un blanc en Coteau de Die. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, non ?
Ouais, c'est des projets, mais qui sont à très très long terme, donc on n'en parle même pas.
Est-ce que tu voudrais nous donner encore quelques autres informations sur ce syndicat ?
Alors, juste pour dire qu'il y a un site internet qui est ouvert à tous, hein, on peut y aller. Donc le...
Pourquoi ces grands yeux, c'est tout frais?
Parce que c'est tout frais, voilà. Il a un an et demi, mais il est encore donc, vraiment tout beau. Clairette-2-10.com, donc tout simplement. Et puis si vous faites Clairette 2-10 sur un moteur de recherche, on sort toujours en premier parce qu'on est, voilà, comme on fait la synthèse de toutes les caves, on est assez bien référencé. Et puis pour ceux qui ont un téléphone portable et qui ont un peu de connexion, parce que dans la vallée, des fois, c'est un peu compliqué, mais on a essayé d'avoir un site très léger. On a un site mobile également qui permet de visiter les sentiers et les caves. Donc c'est clairette-2-10.mobi.
Voilà, j'allais poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait sur ce site? On sait où se trouvent les sentiers, on a des liens vers les différentes caves.
Sur le site mobile, voilà, c'est essentiellement les sentiers, la route des vins et les différentes caves et les actualités, quand il se passe un événement, une porte ouverte, une dégustation, commenter, une balade.
Merci Fabien Lombard pour cette présentation des activités du syndicat de la Clairette de Die. On vous retrouve en plein centre du Festival des Espiègleries les 14, 15 et 16 mai, c'est-à-dire en plein centre de la rue Camille Buffardel, où on pourra aller acheter un verre de Clairette pour déguster auprès des producteurs et puis prendre d'autres informations.
Oui, absolument. Donc il y aura un stand où on aura accès à toute la documentation du syndicat et des explications sur les appellations.
En dehors de cette fête, est-ce que le syndicat a l'habitude de faire des stands?
La Clairette sera présente également sur la fête de la transhumance, qui sera le mois d'après sur Die. Et sinon, donc, nous avons des différents partenariats, et notamment un partenariat sur le festival Le Millésime à Grenoble, où donc on fait déguster la Clairette sur les 4 jours de la manifestation.
Voilà, parce que sinon, hein, d'habitude, c'est plutôt des producteurs indépendants qu'on va trouver un peu partout, mais rarement le syndicat en entier.
Alors nous, on n'a pas non plus donc vocation, des moyens humains voilà, importants, donc notre périmètre nous permet d'aller sur quelques actions, donc on y va. On va plutôt là où les caves ne vont pas, donc c'est pour ça que sur certaines manifestations, nous, on y va. Puis j'oublie, c'est très important, là, on est en train de travailler sur le mois de la vigne, donc c'est avec l'Office du tourisme de Cré, et on va également associer l'Office du tourisme de Die, donc, et de Saillant, comme maintenant Cré et Saillant ont fusionné, donc c'est toute la vallée où on va travailler donc sur le mois de la vigne pour justement faire découvrir aux touristes qui viennent en septembre, et ils sont nombreux, toute l'activité pendant les vendanges. Donc c'est un peu contraignant pour les viticulteurs, mais c'est très intéressant pour les visiteurs. Donc voilà, c'est des actions comme ça que nous, on peut mettre en place au niveau du syndicat, parce qu'on a une réflexion plus globale en fait sur l'accueil des touristes. Et là où les caves vont, ben, on n'y va pas. Voilà, on les laisse faire leur activité, et ils font aussi la promotion de toute manière de la Clairette pour l'ensemble des caves.
Ce mois de la vigne va être actif dès cette année?
Oui, il y avait la semaine de la vigne sur 2014 et on va généraliser ça sur le mois de la vigne. Donc ce sera essentiellement, bon, les contours ne sont pas encore complètement arrêtés, mais autour des sentiers, donc ce seront des balades commentées autour des vignes, des visites de caves, des dégustations. On va voir pendant les vendanges, donc les vendangeurs dans les caves, les pressurages, et déguster des jus de muscat, donc avant de déguster des clairettes.
Et bien voilà, tous ces renseignements sur le site internet du syndicat de la Clairette-2-Die. Tous ces liens que vous retrouverez sur la page dédiée à cette interview sur le site internet de la radio. Voilà, je vais retrouver mes mots. Fabien Lombard, merci beaucoup. Et à la prochaine, probablement au 16 mai, puisque nous serons présents avec Ardua sur le Festival des Espiègleries. À bientôt.
Avec plaisir, merci.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.